Vous écoutez, on lit pour vous.
La santé mentale, on en parle. Un texte de Gwendoline Le Bomain, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale. La Commission de la santé mentale du Canada rapporte qu'une personne canadienne sur cinq aura un problème de santé mentale ou lié à l'usage de substances dans une année donnée. Dans les territoires du Nord, les risques de dépression ou de suicide sont plus élevés. Les problèmes de santé mentale et liés à l'usage de substances se développent souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. La moitié de tous les troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans et 75 % commencent avant l'âge de 24 ans. Le 22 octobre dernier, Sabrina Junio-Romano a donné un atelier d'une journée sur les premiers soins en santé mentale au Centre de la francophonie. Cette formation, organisée par le Partenariat communauté en santé, PCS, était axée sur l'aide aux jeunes. Sabrina Junio-Romano est travailleuse sociale de formation et maintenant spécialiste des formations pour les programmes francophones de la Commission de la santé mentale du Canada. Elle se rend dans plusieurs endroits du pays pour animer des ateliers. En parler pour démystifier la santé mentale. Nous sommes naturellement plus portés à aider une personne qui a une blessure physique qu'une personne qui vit un défi de santé mentale. Il y a encore une énorme stigmatisation et beaucoup de préjugés qui découlent de la santé mentale, explique Sabrina Junio-Romano. Son but est d'essayer de démystifier et de faire comprendre que, parfois, juste avoir une conversation ouverte et honnête avec quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de santé mentale, ça peut quand même l'aider. C'est plus facile de reconnaître la santé physique parce qu'on la voit et parce qu'on la connaît. La santé mentale, parce qu'on ne la voit pas, on a aussi un peu plus de mal à la comprendre, ajoute-t-elle. À partir du moment où l'on comprend mieux la santé mentale, c'est plus facile d'en parler. Et c'est plus facile d'en parler avec des gens qu'on connaît, mais aussi avec des gens qu'on ne connaît pas, de pouvoir être là pour eux. On devrait avoir plus confiance en nous, parce qu'on a tous une communauté, et on sait comment interagir les uns envers les autres. Là où on perd confiance, c'est parce que l'on comprend moins bien, dit-elle. Finalement, la santé mentale, ça passe par « tu es importante » ou « tu es important pour nous »,« je veux juste être là pour toi », »,« peut-être que je ne comprends pas », »,« peut-être que je ne sais pas quoi te dire », »,« mais je vais te tenir la main et si tu as besoin que je vienne avec toi à un rendez-vous, je viendrai avec toi ». Et par moments, c'est juste de ça qu'on a besoin, informe la formatrice. Comment reconnaître les signes? C'est quand on peut voir qu'une personne commence à montrer des signes qu'elle va moins bien, explique Sabrina Junio-Romano. Sans nécessairement que ça ait besoin d'être diagnostiqué, parce que on n'en est même pas encore là. Si je peux voir des signes, que ce soit de l'anxiété, que ce soit une personne qui a des doutes, qu'il pourrait peut-être y avoir une dépression. Peut-être qu'il n'y aurait pas de dépression, mais quand je commence à voir qu'elle ne va pas bien, juste de pouvoir dire « je m'inquiète, j'aimerais qu'on puisse en discuter parce que j'aimerais être là pour toi ». Le plan d'action des premiers soins en santé mentale, PSSM, s'organise en 6 gestes. Ces gestes ne doivent pas nécessairement être suivis dans l'ordre. L'acronyme AERIES se déploie comme suit. Approcher la personne, évaluer la situation et aider en cas de crise, écouter et communiquer sans porter de jugement, rassurer et donner de l'information, inciter la personne à demander de l'aide professionnelle appropriée, encourager d'autres soutiens et se préserver pour le ou la secouriste il est important de veiller à notre propre bien-être mental et d'accéder à des soutiens personnels et professionnels au besoin. Selon Sabrina Junio-Romano, l'éducation est essentielle pour mieux être outillé. Je pense que c'est important que les enfants, les éducateurs, et je parle d'éducateurs au sens très large, l'école, les parents, la famille, de façon générale, en sachent plus. Plus on va en savoir, plus ça va être facile de pouvoir en parler ouvertement. Et plus on va en parler, plus on va pouvoir prévenir. Et il vaut mieux prévenir que guérir, conclut-elle. De nombreuses ressources de soutien existent au Yukon en anglais et en français. En personne, il existe par exemple des services pour le mieux-être mental et la toxicomanie, Blood Ties for Directions, l'Association canadienne de la santé mentale ou encore la ligne d'écoute Tao TELAID. Pour obtenir la liste des ressources dans les deux langues, il est possible de communiquer avec le PCS. PCSYUKON à commercial francosanté.org. Une formation sera donnée en décembre sur la prévention du suicide. Le PCS a formé plus de 150 premiers répondants, premières répondantes francophones grâce à l'offre de premiers soins en santé mentale depuis sa première formation en 2006, rapporte Sandra Saint-Laurent, directrice du PCS. C'était « La santé mentale, on en parle », un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale.
Laissons aux femmes le droit de choisir. Un texte de Jeanne Marongère, paru le 20 mars 2024 dans le Daily. Depuis que le sport compétitif nécessite des vêtements, celui-ci a été régi par des règles concernant l'habillement des athlètes. Ces restrictions existent pour plusieurs raisons, incluant la sécurité des participants-participantes pour maximiser leur performance, ainsi que pour rendre le sport plus visuellement attrayant pour les spectateurs-spectatrices. Cependant, ces règles ont une tendance pernicieuse, celle de mettre en avant les corps des athlètes féminines afin de plaire au regard masculin. L'histoire du sport est marquée par de multiples instances où les femmes ont dû se soumettre à des normes strictes en matière d'apparence, souvent dictées par les standards sociaux découlant du patriarcat et de l'objectivation historique des corps féminins. Dans le sport compétitif, l'hypersexualisation du corps féminin perpétue des préjugés sexistes injustes sur les femmes athlètes et aujourd'hui, elles en ont assez d'être traitées comme de la chair servant à attirer le spectateur masculin. Victime du regard masculin. Va-t-on un jour laisser à nos athlètes féminines la chance de choisir leur tenue? Il semblerait que ce n'est pas pour tout de suite. Les dernières années ont été ponctuées d'incidents liés aux revendications d'athlètes féminines concernant des restrictions leur étant imposées quant à l'habillement. On pense à l'équipe norvégienne de handball de plage qui a été forcée à payer une amende de plus de 2 000 $ canadiens pour avoir opté pour des cuissards au lieu du bikini traditionnellement imposé lors d'un championnat européen en 2021. Des gymnastes allemandes ont aussi été ciblées par la critique après s'être présentées aux qualifications des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, habillées de combinaisons couvrant les jambes et les bras, au lieu des léotards échancrés auxquels le public est habitué. Il aura fallu attendre 2023 pour que le tournoi de tennis Wimbledon assouplissent ces restrictions ultra strictes quant à l'habillement complètement blanc qui était imposé aux joueurs comme aux joueuses, mais qui était depuis bon temps remis en question par les joueuses qui se disaient inconfortables de devoir porter du blanc durant leur menstruation. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que les femmes dans le sport ont toujours été contraintes par des tenues inconfortables, inadéquates ou tout simplement trop révélatrices. une tendance se dessine en ce qui concerne les questions esthétiques dans le sport féminin, celle de la prévalence du mâle gaze dans les décisions prises à l'égard des tenues féminines dans le sport compétitif. Il semblerait qu'il soit nécessaire que le spectateur masculin se sente interpellé par les tenues légères des athlètes et non par leurs prouesses sportives pour daigner s'intéresser au sport féminin. À mon avis, il est déplorable qu'on réduise encore aujourd'hui les femmes athlètes à leur apparence physique plutôt qu'à leur performance sportive et qu'on accorde autant d'importance au fait que leurs jambes soient dévoilées au lieu de leur offrir la reconnaissance qu'elles méritent. Je pense aussi qu'on se doit de souligner la prédominance des hommes sur les comités responsables de légiférer sur les tenues vestimentaires imposées aux athlètes féminines. Si on se penche sur le cas du Comité international olympique, CIO, on remarque rapidement que les 9 présidents ayant été à sa tête sont des hommes depuis sa création en 1894. En date de décembre 2023, sur les 16 personnes administrant le CIO, seules 5 étaient des femmes. Cette inclination n'existe pas seulement au sein du CIO, mais aussi dans de nombreuses autres instances dirigeantes du monde sportif. Cette sous-représentation féminine dans les organes décisionnels renforce les inégalités de genre et influence sans doute les politiques qui régissent les tenues sportives féminines. Le pouvoir de choisir. Selon Guylaine Demers, membre du groupe de travail fédéral sur l'équité des genres en sport et professeur titulaire à l'Université Laval, c'est bien plus qu'une controverse sur le port du bikini. Il s'agit d'une question d'autonomie et de choix. En effet, les femmes dans le milieu sportif réclament bien plus que la simple autorisation de porter certains vêtements, mais une réelle considération de leurs préférences, de leur confort et de leur liberté de choix en ce qui concerne leur apparence et leur habillement lors de leur participation aux événements sportifs. Dans ces mots, l'enjeu n'est pas d'interdire le bikini et d'imposer le short, mais que les athlètes puissent prendre des décisions par et pour elles-mêmes, qu'elles puissent se réapproprier leur corps. Cela m'a fait penser à l'interdiction du port du hijab pour les athlètes féminines françaises lors des Jeux olympiques de 2024. Dans la foulée du mouvement de laïcité en France, l'équipe olympique française a annoncé l'automne dernier son intention de bannir le port du hijab pour ses athlètes. Bien qu'il existe des explications culturelles sous-tendant cette interdiction, il m'apparaît clair que c'est encore une fois une forme de légifération sur les corps féminins qui n'a pas lieu d'être. Il est malheureux qu'encore une fois, on force ces athlètes à devoir choisir entre leur passion pour le sport qu'elles pratiquent et leur religion. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que les femmes dans le sport ont toujours été contraintes par des tenues inconfortables, inadéquates ou tout simplement trop révélatrices. Il est impératif de reconnaître que la lutte pour l'égalité dans le sport va bien au-delà de la simple question de vêtements. Ceci étant dit, l'habillement reste un combat central à la cause féministe dans le sport de haut niveau, puisque ces règles reflètent souvent des normes sexistes et patriarcales qui réduisent les femmes à leur apparence physique plutôt qu'à leurs compétences athlétiques. L'histoire du sport est marquée par de multiples situations où les femmes ont été contraintes de se conformer à des normes esthétiques injustes, souvent dictées par le regard masculin. Il est essentiel que les athlètes féminines aient le pouvoir de choisir leur tenue en fonction de leurs préférences, de leur confort et de leur liberté individuelle. En donnant aux femmes athlètes la possibilité de se réapproprier leur corps et de prendre des décisions autonomes, nous pouvons travailler vers un sport plus inclusif et équitable pour tous et toutes. Il semblerait qu'il soit nécessaire que le spectateur masculin se sente interpellé par les tenues légères des athlètes et non par leurs prouesses sportives pour daigner s'intéresser au sport féminin. Enfin, de récentes controverses entourant notamment le port du hijab dans le sport mettent en lumière la nécessité de lutter contre toute forme de légifération sur les corps féminins. il est temps de mettre fin à ces pratiques discriminatoires et d'adopter une approche plus respectueuse de la diversité et de l'autonomie des athlètes féminines. C'était « Laissons aux femmes le droit de choisir », un texte de Jeanne Marangère, paru le 20 mars 2024 dans le Daily.
Comment gérer le compost? Un texte de Florence Dancause, paru le 9 novembre 2024 dans la presse. L'entretien de la maison est source de beaucoup de questionnements et certains se tournent vers ChatGPT pour les aider. Nous avons soumis à un expert une question fréquemment posée à l'intelligence artificielle. Voici la réponse humaine. La question de la semaine. Comment gérer le compost? Réponse de notre expert Anthony Côté-Leduc, chargé des relations médias chez Équiterre. Le compostage et le fameux bac brun sont entrés dans nos vies depuis quelques années, mais ils suscitent toujours des interrogations et certains refusent de les intégrer dans leur routine. Le plus important, c'est de limiter le plus possible les barrières physiques et psychologiques, croit Anthony Côté-Leduc. En effet, la participation à la collecte de résidus alimentaires est loin d'être majoritaire. À Montréal, par exemple, ce sont 51% des ménages montréalais qui disent participer systématiquement ou souvent à la collecte. Alors, comment peut-on apprendre à bien gérer et à adopter le compost dans notre vie? On doit tout d'abord se rappeler son importance et l'impact de notre geste, croit le chargé des relations médias chez Équiterre. Composter pollue moins qu'enfouir les matières organiques, parce que la décomposition des déchets organiques dans un site d'enfouissement crée du méthane, qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Sans oublier le fait que les sites d'enfouissement débordent en ce moment au Québec. Qu'est-ce qui se met dans le bac brun? Faire un tour sur le site web de notre municipalité ou de notre arrondissement peut être d'une grande aide pour avoir accès à la liste des résidus qu'on peut y déposer. On peut garder un aide-mémoire sur notre téléphone ou bien l'afficher sur le réfrigérateur à la vue de toute la maisonnée. En règle générale, il y a trois principes assez simples à suivre, selon le site de Recyc Québec. Est-ce que ça se mange ou est-ce une partie de quelque chose qui se mange? Est-ce en papier ou en carton, souillé, non ciré? Et est-ce un résidu de jardin, sauf les branches? Les municipalités peuvent faire des collectes séparées pour les résidus alimentaires et les résidus verts, comme les feuilles. On s'informe au préalable. On se donne un break. On met ce dont on est sûr au compost, mais on n'a pas besoin d'être parfait, surtout quand on commence, rappelle Anthony Côté-Leduc. À portée de main. L'emplacement de notre bac à compost de comptoir peut faire toute la différence. Il faut mettre son bac près de l'endroit où on cuisine. Il n'y a personne qui a envie de faire 12 mètres avec 2 livres de pur d'oignon dans les mains. Un tiroir dans notre îlot de cuisine ou le placard sous l'évier peuvent être des endroits stratégiques pour garder notre bac accessible, mais hors de la vue. On prévoit de cuisiner et d'avoir énormément de retailles et d'épluchures? On peut sortir un grand bol pour les recueillir et les vider ensuite directement dans notre bac brun à l'extérieur. Comment gérer les odeurs de notre compost? Mon meilleur truc, c'est de ne pas attendre que l'odeur s'installe, indique M. Côté-Leduc. Prendre l'habitude de transférer rapidement le contenu du bac de comptoir au bac brun permet d'éviter les relents nauséabonds. On peut aussi entreposer nos résidus au congélateur si on a la place pour le faire. On met notre bac brun en bordure de rue à chaque collecte, même s'il n'est pas complètement rempli, pour éviter encore une fois des effluves désagréables. Autre astuce, le bac brun devrait être placé à l'ombre, particulièrement en été. Comment peut-on éviter de nettoyer trop souvent nos bacs? Le chargé des relations médias chez Iquitaire suggère de mettre du papier journal, des circulaires par exemple, au fond de notre bac de comptoir pour éviter que les résidus collent aux parois. Des sacs bruns spécialement conçus pour le compost peuvent aussi être achetés, mais on évite les sacs en plastique, même ceux identifiés comme étant compostables, puisque plusieurs centres de traitement les traitent comme des contaminants. On prend l'habitude de laver nos bacs assez régulièrement. Le bac de comptoir peut être nettoyé avec un mélange d'eau, de savon et de bicarbonate de soude ou de vinaigre. On peut nettoyer à grande eau le bac brun après chaque collecte, une habitude qu'on peut délaisser l'hiver. Les composteurs électriques de comptoir vous font de l'œil? Ça coûte excessivement cher. Puis ne rajoutez pas une bébelle de plus à votre vie, conseille Anthony Côté-Leduc. Commençons par la base. Compostons avec les outils que la ville nous offre. C'était « Comment gérer le compost », un texte de Florence Dancause paru le 9 novembre 2024 dans La Presse.
Saint-Léonard et moi, un texte de Marie-France Bazot, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse. Dans la salle obscure du cinéma Beaubien, soudainement, en plein milieu d'un documentaire où on montrait la vie d'enfants d'immigrants italiens à Montréal, mes larmes se sont mises à couler, incontrôlables. Je voyais ces gamins de 6 ans à l'école, chez eux, près du sapin de Noël, et je braillais ma vie. Des souvenirs non sollicités jaillissaient. Je reniflais, surprise et ébranlée. C'est le passionnant documentaire de Félix Rose, « La bataille de Saint-Léonard » qui m'a fait cet effet. L'avez-vous vu? À partir de séquences d'archives et de témoignages, ce film raconte la bataille qu'ont menée en 1968 et en 1969 des Canadiens français de Saint-Léonard et des militants nationalistes pour avoir des écoles françaises plutôt que des écoles bilingues, comme le souhaitaient les Italo-Canadiens installés dans cette toute nouvelle municipalité. Ce combat opposait le militant Raymond Lemieux au promoteur Mario Baronnet, l'homme qui a littéralement créé cette nouvelle ville. La bataille est allée jusqu'à l'émeute. Les images en noir et blanc sont saisissantes. On voit naître la ville à partir de plans, surgir dans les champs avec en toile de fond la nouvelle autoroute métropolitaine, quasi déserte. Les maisons se montent, le métro se creuse, l'expo émerge. La bataille est un documentaire troublant sur une page capitale de notre histoire, la fin mouvementée de la Révolution tranquille qui mènera à la fondation du Parti québécois. Dans ce film, tricoté à travers le récit de deux familles que tout oppose, on passe des enjeux familiaux à ceux du débat national. Toujours est-il que je pleurais. Ma famille est biculturelle. Mon père était italien, ma mère canadienne-française. Contre toute attente, elle qui se méfiait de l'étranger avait épousé un Italien, mais ne voulait surtout pas que nous ressemblions à des WOP de Saint-Léonard. Elle a francisé notre patronyme, jamais plus prononcé « Bazot », a exigé que nous habitions un quartier francophone, Youville. Ma sœur et moi serions de bonnes petites Québécoises sans particularité. Dehors, l'actualité faisait rage. Quand je rentrais de l'école primaire, le midi, j'entendais à la radio le son de l'époque. Bill 63 sur la langue d'enseignement, McGill français, crise d'octobre. Ma mère, sympathique à ces mouvements, écoutait, attentive. Très vite, mes parents posséderont leur carte de membre du PQ naissant. Toute mon enfance, mon meilleur ami était mon cousin, le fils d'Égidio, le frère de papa, et de mon adorable tante Edna, une Acadienne de Chipagan. Nous les voyions très souvent, même s'ils habitaient loin, dans Mercier. C'était un couple dynamique, accueillant, avec un sens de la famille admirable. Mon cousin et moi passions de longues heures à dessiner, nous avions le même âge. Mais au moment où nous allions entrer au secondaire, une chicane homérique est survenue entre ma mère et Edna. Ma mère était révoltée que sa belle-sœur ait choisi d'envoyer son fils à l'école anglaise. Du jour au lendemain, j'étais séparée de mon cousin, radioactif. Ma mère interdisait à mon père de parler à son frère. Pour des raisons politiques, les ponts ont été coupés. L'époque était électrique. J'ai perdu de vue mon cousin. » Dans la bataille de Saint-Léonard, les enfants le mieux expliquent, avec beaucoup de pudeur et de retenue, comment les idées, les actions et l'intransigeance de leur père ont fait fuir leurs proches, comment ils se sont retrouvés isolés. Le couple le mieux a éclaté à une époque où on ne se séparait pas. Pourtant, ça prenait cette dose de détermination pour mener un combat plus grand que soi. Les enfants Baronne et eux racontent comment leur famille était traquée. Leur maison fut incendiée à quelques reprises par des cocktails Molotov. La bataille de Saint-Léonard ne s'est pas éteinte avec 1969. La crise d'octobre suivrait. Les dommages collatéraux de cette période effervescente se jouaient parallèlement dans l'intimité de plusieurs familles. Ils ont durablement abîmé la mienne. Après, le temps fait son affaire. La lutte pour le français s'est incarnée politiquement. J'ai fait mon secondaire, mon cégep, j'avais de nouveaux amis. La vie, quoi. Mon père voyait son frère de loin en loin. Ma mère a continué à militer. On ne parlait jamais du schisme familial. Ma mère souffre aujourd'hui d'Alzheimer. Il y a 11 ans, au décès de papa, toute la petite famille Bazot est venue. Ce furent des retrouvailles évidentes, comme si on s'était quitté la veille. Que de temps gâché! Depuis, nous nous sommes occupés à rattraper ce temps perdu, sans ma mère. Nous multiplions les soupers, les occasions, profitant d'Egidio et d'Edna au maximum. Ils sont morts en 2023. Mon cousin et moi sommes allés ensemble en Vénétie sur les traces de nos pères pour un bouleversant pèlerinage. Son parcours scolaire anglophone n'aura pas fait de mon cousin un moins bon Québécois. Il est parfaitement francophone, investi dans son milieu et plus riche d'expériences contrastées. Mon parcours exclusivement francophone ne fait pas de moi une personne fermée comme ma mère l'était. Mon père a été la principale victime de cette rupture, lui qui n'aura pu nous communiquer à ma sœur et à moi toute la richesse de sa culture. J'en suis nostalgique et encore blessée. J'aurais dû aller voir ce film avec mon cousin. La force du documentaire de Félix Rose est de montrer l'intime et l'historique, le personnel et la société. Les événements qu'il décrit ont contribué à cette idée que la place du français doit être protégée par la loi. Les répercussions sont fondamentales pour le Québec actuel. Finalement, des générations de néo-québécois font leur vie en français, sont fiers de leurs racines et raisonnablement concernés par l'avenir du Québec. Quant aux Bazot de la deuxième génération, ils préparent leur séance annuelle de fabrication familiale de tourtière. On parlera de ça en cuisinant. C'était « Saint-Léonard et moi », un texte de Marie-France Bazot, paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.